This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water and instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive. You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.
Vous écoutez
RMC. RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero. Ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Super Brébois.
Avec Jérôme Breton, avec Daniel Riolo et avec Laure Lepailleur, toujours avec nous. Tout à l'heure, Simone Rovera dans une demi-heure. Tout à l'heure, Julien Cazard nous rejoindra. Il veut parler de tout Bizarreta, Julien. Je ne sais pas pourquoi, on verra tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on aura notre célèbre quiz tout à l'heure. Jérôme, prépare-toi. Le quiz de Julien tout à l'heure aux alentours de 23h40. Mais d'abord les matchs. D'abord les matchs et ces fameux tirs au but en Coupe de la Ligue, Clément Brossard.
Ouais, ça tire dans tous les sens, Gilbert, puisqu'on assiste à une séance de tirs au but entre Bourg-en-Bresse et Béziers, entre le Gazélec Ajaccio et le Paris FC, entre Le Mans et Orléans et entre Niort et Grenoble. Petite info, affluence, vous la cherchez depuis tout à l'heure. Ça y est, je l'ai. L'affluence donc au stade de Niort, au stade René Gaillard, il y a actuellement 2372 personnes.
Mais non. Voilà.
J'avais dit 1005 moi.
Ouais, ils ont invité tout le monde ou quoi ?
Parce qu'ils ont gonflé. Ils ont gonflé.
Ou les gens sont arrivés pour les tirs au but peut-être ?
Ah, je sais pas, c'est quand même très étonnant.
Ils ont gonflé la note.
Il y a que ça à faire.
De toute façon, c'est pas la première fois qu'ils gonfleraient des notes.
Oui, ça c'est vrai.
On le sait très bien. Donc
t'as pas l'évolution des tirs au but j'imagine là, parce qu'avec tous les matchs qui sont en même temps.
Et tiens, justement, on parlait de Niort, deuxième qualifié après la AS Nancy Lorraine tout à l'heure contre la AC Ajaccio. Niort vient de s'imposer au tir au but face à Grenoble, donc les Isérois éliminés. Voilà pour l'instant, sinon on est encore sur les autres terrains.
Bah on vient de voir dans quelques instants pas pour
les joueurs font le tour de la piste là-bas, ils parlent.
Alors, attention. Pour fêter. Philippe est là et chambrez pas trop Niort parce que ça va énerver Philippe.
Ah bah non.
Il est Niorté.
Bah non,
salut Philippe.
Salut l'after.
Salut Philippe. Ça va Philippe?
Oui, ça va. Oui.
T'as entendu parler de Niort, ça t'a énervé?
Tu captes là, c'est bon?
Oui, parce que alors moi je suis pas à Niort, je suis à Paris, mais je suis supporter des Niortais. On se voit au moment du match de l'after, hein, celui qui a le maillot des chamois, c'est moi, voilà.
Ah,
un vrai chamois.
Et voilà. Et on fait souvent 2500 spectateurs hein, même en semaine.
D'accord. C'était Coupe de la Ligue en plus.
Habitants. On n'est pas Marseille, on n'est pas Paris, ça c'est sûr, mais.
Le foot intéresse les gens et les gens y vont, c'est bien. C'est bien.
Ouais.
Tant mieux.
Très bien. Bon, on parlait des grands joueurs qui sont passés par Niort. T'en as d'autres à citer à part
Abedi Pelé.
Ouais, on l'a dit ça.
J'avais été ma radio.
On a cité les Lundoula.
Bon, Régis Boire a bien entraîné Niort. Ouais, Pascal Gastien.
Jallet.
Junior, bien sûr, c'est un chamois, Jallet.
On a dit grand joueur.
Da Silva, de quand il a été formé au Chamois Niorté. Le gardien est passé aussi par les Chamois Niorté. Grands joueurs. Alors, après une époque qu'on était en Ligue 1, on a eu Maurice, là, l'ex-un Nantais. On a eu Bruno Steck.
Le pote de Franck Leboeuf.
Le pote, voilà.
Qui faisait la charnière, Steck Leboeuf.
Steck Leboeuf. Bruno
on
Steck.
On a eu Mario Rémy aussi, un attaquant qui était de Limoges.
Et le Nantais dont tu parles, c'est Pierre Maurice?
Pierre Maurice, oui, voilà.
Ah, il a un sacré pied gauche, Pierre Maurice. J'adorais, j'aimais beaucoup ce joueur. Quelle technique.
On a eu Colombo aussi.
Qui avait été extraordinaire, Pierre Maurice, dans un Nantes Inter de Coupe UEFA dans les années 80.
Oui, c'est
un très beau joueur. Ouais. Tu te souviens pas ?
Je crois qu'il y a eu 3-0.
Si, c'est un beau pied gauche.
3-3, je crois, un truc comme ça, peut-être.
Elle a pas fait une carrière très longue et tout, mais c'était un très beau joueur.
J'ai une liste sous les yeux, moi. Il y a Albert Rust qui est passé par Niort.
Oui, voilà, il nous a entraînés. Ouais,
Philippe Hinsberger qui est passé par Niort aussi.
Qui vous a pas entraîné aussi, non ? Parce que vous avez votre temps qu'à faire.
Zvinka ? Ah, ouais. Tout le monde est venu, j'ai oublié.
Didier Tolo, le mythique Didier Tolo, est passé par, par
oui, sur le banc. Sur le banc, tout le monde est joué sur le banc d'honneur.
Joueur.
Ah, joueur Tolo.
Ouais. Joueur.
Joueur entraîneur après.
Entraîneur non, mais joueur
non.
Oui.
D'accord. Bon, ça va pas tarder.
D'accord. Ouais. Non, on est content là, cette petite mise au point sur les Chamois Niortais, ça s'imposait, moi je dis.
Bah écoute, merci Philippe.
Merci Philippe.
Bah, je vous en prie, et puis bah, continuez comme ça, changez rien surtout. Hein. Et allez Chamois, hein, allez Chamois.
Ouais, ouais, allez, Chamois. On dit comme ça, on dit allez Chamois.
On dit pas allez les Chamois, c'est allez Chamois.
Non, allez Chamois.
Allez Chamois, allez Chamois. Non,
les Chamois, les Chamois, les Chamois. Allez Chamois, les Chamois.
Merci Philippe, salut.
Chamois.
La Coupe de.
Allez Chamois, allez Chamois. Pas les Chamois.
C'est peut-être la première fois que dans l'after on parle de Niort quand même.
Bah, probablement.
Attends, ils méritent, ils ont une bonne équipe. Hein. Il y a un taulier derrière, ils ont en pris Mathieu Sens, défenseur central, un grand là, qui est très technique et qui régale les supporters.
Petit point sur les séances de tir au but, où en est-on, Clément?
Nancy qualifié donc, Niort à l'instant, et également Bourg-en-Bresse qui élimine Béziers après une longue séance de tir au but, 6-5.
Ils ont fait l'exploit.
Ils ont fait l'exploit, tout à fait, tu as raison. Le match qui t'intéresse le plus ce soir, Jérôme. De tir au but donc remporté par Bourg-en-Bresse face à Béziers, et puis ça tire toujours. Au Mans, on est désormais à 8-7 pour Le Mans face à Orléans.
Prochain sans gardien, c'est dur hein, d'arrêter un pénalty.
Et puis un autre match entre le Gazélec et le Paris FC. Là, on est à 5-4 pour le Paris, pour le Gazélec qui vient tout juste de manquer son tir au but. Si on ne marque pas côté Paris FC, ce sera donc si on marque côté Paris FC, ce sera le Paris FC qui se qualifiera pour les 16e de finale.
Tu nous tiens au courant. La Ligue des Champions, les barrages retour, c'est reparti en deuxième mi-temps de Gilouata.
Ouais, c'est reparti depuis 5 minutes un peu partout, un peu plus même 8 minutes à Rosenborg. Toujours 1-0 pour Rosenborg face au Dynamo Zagreb. Je rappelle qu'en cas de but des joueurs de Rosenborg, il y aurait prolongation et potentiellement tir au but. Il n'y a plus de suspense du tout entre Krasnodar et l'Olympiakos, puisque l'Olympiakos a marqué un deuxième but encore par Youssef El Arabi et sur une passe décisive de Mathieu Valbuena. 51 minutes de jeu sur cette pelouse. Là. Et là où on s'attendait à ce que ça bouge beaucoup parce qu'il y a eu 2-2 au match aller, et ben ça bouge pas du tout entre l'Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne. 0-0 entre ces deux équipes, 50 minutes de jeu.
À tout à l'heure. Alors on revient sur Nice, tout à l'heure on parlera de Neymar parce qu'on a quelques infos à vous donner, et puis l'Italie, mais d'abord Nice. On va écouter Bob Radcliffe qui donc s'exprimait cet après-midi en anglais hein, bien sûr. Il parle donc de son ambition de faire de Nice un club régulièrement européen.
Nous voulons devenir dans les 3-4 prochaines années une équipe qui joue les compétitions européennes. Nous souhaitons arriver à cet objectif et y rester. Mettre le club sur de bonnes bases et qu'il puisse régulièrement participer aux compétitions européennes.
Voilà. Un de plus.
Alors, il te dit pas, il n'arrive pas avec ses gros sabots en disant on va jouer les Ligues des Champions dans deux ans.
Non, ça, mais un de plus, mais en fait, il faut après suivre la conférence de presse parce qu'il y a d'autres choses.
Paris FC qualifié, je le place juste vite fait. Vas-y, Laure.
Bah, suivre aussi la conférence de presse, ça, forcément, il affiche quand même des ambitions. Parce que quand tu rachètes un club, forcément, tu dois être ambitieux. Maintenant, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, ils ont parlé d'investissement raisonnable et mesuré. Donc je pense qu'ils ont aussi un petit peu fait l'état des lieux de ce qui s'était fait en Ligue 1. Et quand tu vois McCourt, quand il est arrivé, il a mis de l'argent sur la table qui a été dilapidé de façon cet argent est parti en fumée. Tu as pris des joueurs, entassé des joueurs sans vraiment avoir de réel projet. Là effectivement, je pense qu'ils ont fait un bon état des lieux par rapport à ça. Et c'est surtout moi ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils ont pas eu ils ont pas dit qu'ils allaient tout révolutionner, qu'ils allaient continuer de construire autour déjà du projet qui était autour de Nice, et c'est-à-dire s'appuyer sur des jeunes joueurs. Je pense qu'ils feront quelques coups pour pouvoir justement étoffer cet effectif, mais je pense que voilà, ils arrivent avec de l'ambition, mais tout ça reste en bonne intelligence, je pense.
Et je disais un de plus parce que au fond notre football est quand même en train de vivre une petite révolution. D'abord parce qu'on n'a jamais eu, je dis pas que ça va au terme, hein, mais il y a jamais eu autant d'annonces positive. On a aujourd'hui donc Paris, Lyon, Monaco, Marseille, Nice,
Bordeaux.
Bordeaux.
Est-ce que Bordeaux annonce vouloir jouer l'Europe régulièrement?
Écoute,
je comptais les clubs qui annoncent des ambitions européennes. Il y a ces cinq-là, ça a été annoncé clairement. Est-ce que Saint-Etienne annonce vouloir jouer l'Europe de la même façon?
Ils n'ont pas besoin de l'annoncer. Le budget, c'est pas 100 millions aujourd'hui. Okay, donc, ça me paraît logique qu'ils visent les places européennes.
Donc, Saint-Etienne, Lille, j'ai oublié de compter Lille. Ouais. Lille veut être dedans aussi. Rennes, dans la construction de leur projet, c'est pas pour être des figurants. Bordeaux annonce pas la même
Rennes,
chose.
Potentiellement, c'est trois fois l'argent de Radcliffe. Hein.
Donc on a,
oui c'est vrai.
Ils mettent pas. On n'a jamais eu en Ligue 1 autant de clubs qui voulaient. Après, vouloir, ça veut pas dire faire, mais qui en tout cas annoncent des choses comme ça. Voilà. Après, il y a comment tu vas faire, parce que c'est bien beau de parler, parce que ça peut nous ramener aussi dans les ceux que j'ai cités. Bah, il y a l'OM, et l'OM, entre ce qu'ils annonçaient, ce qu'ils sont aujourd'hui, il y a un souci. Mais dans ce qui est annoncé, donc ça c'est le premier constat que je voulais faire, c'est les annonces. Est-ce que ça va apporter plus de compétitivité dans notre Ligue 1? Faut l'espérer. À partir du moment où t'annonces des ambitions, ça veut dire que t'as envie de jouer, t'as envie d'aller chercher les résultats. Donc j'espère que notre championnat va devenir plus compétitif. Je suis en train de rêver. Hein, j'espère que ça va être ça. Et le deuxième constat, c'est que tu n'as en tout cas plus personne en France qui veut investir dans le foot. Notre championnat est totalement à vendre. Mais notre championnat est ouvert, parce que Didier Quillot a beaucoup cherché les investisseurs étrangers, a aidé à favoriser par les voyages, par les bureaux en Asie, aux États-Unis. Mais parce que il l'a pas fait, parce qu'il avait envie forcément.
Totalement à vendre. Non, il y a pas tous les clubs qui sont pas à vendre. Rennes, par exemple, je crois pas que les Pinots veuillent vendre.
Donc, exception.
Par exemple, je cite Lyon, je crois pas qu'Aulas aujourd'hui veuille se désengager. Strasbourg, personne veut se désengager.
Il y a 20 clubs.
Bon, hein. Là, j'en ai déjà 3.
Il y a 20 clubs. Donc, Saint-Etienne est à vendre. Nantes est à vendre. Bordeaux, c'est un mec bien avec de l'oseille.
Nice et Monaco ne sont pas à vendre aujourd'hui. Marseille non plus.
Marseille, si.
On monte à 6.
Marseille, c'est à vendre. Marseille, c'est un mec vient avec de l'oseille et tout.
Il se casse direct là.
Évidemment. Évidemment, c'est un mec vient avec de l'oseille.
Il veut plus mettre d'oseille.
C'est quand même un sacré camouflet alors.
Ah ben, camouflet ou pas camouflet.
Dis aux supporters marseillais que c'est un camouflet. Si t'as un mec blindé qui rachète le club, ils sont contents. Qu'est-ce qu'ils ont à faire?
Il va te dire non, ma cour, il va te dire non, j'en veux pas de votre oseille. Moi, je reste, mais j'investis plus.
Je le souhaite à l'OM aujourd'hui vu la situation. Mais Toulouse,
on le dit pas assez souvent, mais Toulouse est un club qui est
bien
structuré. Succursale, Toulouse, c'est succursale de Manchester City. On oublie que c'est pas qu'ils appartiennent officiellement à Manchester City, mais c'est une succursale de City. Toulouse, c'est un club qui potentiellement a une existence relative. Quoi, ils sont pas là pour. Après, qui t'a d'autres.
Non, mais t'as raison. La plupart, si t'as quelqu'un qui arrive et qui met de l'oseille et qui veut investir,
et tu n'as plus de Français qui dirige.
Dijon, c'est pas avant.
Lyon, Strasbourg, c'est Lyon, Strasbourg, Rennes sont un peu les exceptions.
Mais moi, je pense que n'importe quel investisseur qui vient et qui met de l'argent,
mais oui, le club, de toute façon, à part des clubs qui sont des gros clubs aujourd'hui où c'est quasiment impossible de bousculer la hiérarchie, sinon la plupart sont à vendre. Mais moi, je voulais revenir à ce qu'il dit. Moi, il y a pas de problème. Et Yann nous confirmait donc en disant attention, il est vigilant, il veut pas ouvrir les vannes, le recrutement Maurice et Dolberg, ok, très bien, parce qu'il faut renforcer. Tu penses vraiment qu'avec Maurice et Dolberg, Nice va être dans la partie haute du classement? Ben moi, j'ai pas vraiment de certitude encore, même s'ils sont bien partis.
C'est quoi
mais attention, il annonce des objectifs.
La partie haute, c'est-à-dire les 7 premières places, quoi.
Moi, j'en sais rien. Franchement, la Ligue 1, c'est très, très ouvert.
Non, mais
Daniel, Jérôme,
non, mais
c'est ouvert. Attends, ça, c'est sur le très court terme. Là, il annonce des ambitions sur entre 3 et 5 ans. Donc là, c'est une première amorce, moi, je pense.
Avec deux attaquants, tu recrutes deux attaquants dans ce championnat-là. T'es absolument persuadé que Marseille va faire top 5, que Monaco va faire top 5.
Mais tu sais pas trop. T'es encore moins persuadé que Nice garde cette réussite du début de saison avec un effectif qui est quand même amoindri où il y a des manques
avec les mecs qui arrivent, il sera pas
moi, pour moi Nice ils avaient des problèmes offensifs
deux mecs seulement
avec
Maurice qui arrive de Lorient de Ligue 2. Non mais d'accord, mais bon Saint-Maximin, je suis désolé, il lui a donné les clés du camion.
Tu gardes ton ossature en tout ce qui est défenseur
même équipe,
et milieu de terrain.
Tu gardes moi, la même chose. Je préfère Dolberg et les mecs qui vont arriver parce qu'il n'y a pas que ces deux-là qui vont arriver. C'est plutôt pas mal.
Je te dis que s'il y a que ces deux-là, la saison déjà, il faut voir comment elle se passe déjà d'un premier temps. Après, tu veux en effet, comme tu dis, c'est pas que des résultats tout de suite. C'est à moyen terme, en bout de 3 ans, voire 5 ans, arriver à des places européennes. Quand tu mises sur des jeunes joueurs comme il vient de nous dire.
Attends, laisse-moi
finir. Il met sur des jeunes joueurs. Donc Maurice de Lorient, Dolberg qui est un jeune joueur, mine de rien, encore aujourd'hui. Si tu fais une saison, si Nice fait une bonne saison cette année, je leur souhaite, hein. que ça continue comme ses attaquants, ils vont briller. Ben, si tu fais une bonne saison, c'est que tes attaquants, ils ont mis 15, 20 buts. Honnêtement, si Dolberg ou Maurice ou un autre met 15, 20 buts l'année prochaine, il va être sollicité. Eh ben oui, c'est toujours pareil. Donc, est-ce que Nice aura les moyens de dire à ces jeunes joueurs-là, écoute, t'es sollicité, t'as les Anglais ou même des gros clubs français qui vont mettre l'argent sur la table, mais nous, ben non, tu restes là, on te garde. Mais franchement, jamais de la vie, ça arrivera. Donc, en fait, investir sur des jeunes joueurs, c'est bien. Pas de problème, mais c'est les mêmes objectifs qu'ont Lille, Monaco, même Bordeaux, c'est-à-dire t'investis sur des jeunes, ils explosent et tant mieux pour eux sur une année, et ben l'année prochaine on les a achetés, Maurice combien, 14 millions? Dolberg, 20 millions. Oui. Et ben, c'est on les a achetés bien.
Voilà, il y a une offre sur le marché, des transferts. Il y a, en France, il y a peu de clubs qui mettent ces sommes-là.
Non, mais Daniel, ils font une bonne saison. L'année prochaine, t'as une offre à 60. Ils font quoi, Nice? Mais ils vont vendre, comme tout le monde. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, je peux te dire que ton projet sur 3 ou 5 ans, eh ben, je sais pas si tu y arriveras, en fait, à structurer comme ça avec des jeunes joueurs. Donc, moi, j'aurais aimé qu'ils tiennent, alors après, peut-être que ça arrivera, hein, mais qu'ils tiennent le discours en disant, déjà, il faut une colonne vertébrale, solide, avec des joueurs d'expérience. Comme ils ont fait une période, ils ont pris Dante.
Oui, oui, Dante, pour la défense centrale.
Ils ont pris, c'était un échec, Schneider, et j'en passe. Mais je pense que Nice a déjà besoin d'avoir des joueurs d'expérience pour mobiliser. Alors,
dans le projet, je pense qu'ils vont y arriver à ça. Je pense qu'au départ, ils vont garder ce même modèle. Et en fonction, je pense, de la place aussi à laquelle tu vas finir en championnat. Imagine Nice, ils sont européens. Effectivement, ils vont peut-être avoir des offres pour vendre ces jeunes joueurs. Mais peut-être qu'ils vont se dire, dans cette optique de vouloir jouer la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, peut-être qu'ils vont justement mettre des joueurs d'expérience. Et je crois que Rycliffe, d'ailleurs, dans sa conférence de presse, parlait de Dante en disant qu'ils avaient besoin de joueurs d'expérience moi, j'ai lu un petit peu ce qui s'était dit autour de ça. Et que pour lui, c'était important d'avoir certains joueurs.
Quand même.
Voilà, certains joueurs cadres pour pouvoir justement avoir de l'expérience et diriger un petit peu ces jeunes joueurs. Donc moi je me fais pas trop de soucis. Je pense que dans un premier temps ils vont s'appuyer sur ce modèle qui se fait. Et puis au fur et à mesure, en fonction des résultats, ils vont aussi aviser. Parce que je pense que oui, effectivement, si tu veux perdurer dans le temps, à un moment donné, il va falloir que tu prennes des joueurs cadre, mais il faudra pas que tu te trompes dans ton recrutement pour pas dilapider
les joueurs. Alors, messieurs, qui s'investissent dans
on va
ce club et qui restent,
quelques instants.
C'est tout.
Jérôme, oui, mais d'abord, pardon. Point Coupe de la Ligue parce que les matchs qui se terminent là.
Encore, mais c'est 1000 ans qu'ils ont commencé.
Il en reste un, messieurs. C'est l'heure, c'est Lens qui affronte Clermont à Bollard.
Il reste
56 minutes. Clermont qui mène 2-1 ici à Bollard. Et donc une grosse demi-heure encore à disputer pour l'instant. Les 100 et or qui sortent de cette Coupe de la Ligue.
Et les autres qualifiés, donc au tir au but, Le Mans qualifié face à Orléans, le Paris FC face au Gazélec, Bourg-Péronne face à Béziers et Niort face à Grenoble. Voilà pour les autres qualifiés au tir au but il y a quelques instants. Et un but a été marqué en Ligue des Champions.
Ouais, un but pour l'étoile rouge de Belgrade, Alexa Vukanović qui marque
tout,
pour l'étoile rouge de Belgrade. Ça veut dire que ça sent mauvais pour les Young Boys de Berne, de Guillaume Oaro qui est resté sur le banc pour l'instant depuis le début de cette partie. 1-0 pour l'étoile rouge de Belgrade. Il y a eu 2 buts partout au match aller. Ils étaient déjà qualifié avec 0-0, mais là avec 1-0 ça se confirme. Sur les autres pelouses, ça bouge pas, toujours ce score de 1-0 pour Rosenborg face au Dynamo Zagreb, un seul but et il y aurait des prolongations dans ce match là et puis 2-1 pour l'Olympiakos face à Krasnodar, orphelin de Rémi Cabella et qui évidemment a eu les pires difficultés à s'offrir une remontada. 2-1, c'est plié de ce côté.
Hugo est avec nous, 32 ses supporters niçois. Salut Hugo.
Bonjour à tous.
Bon, salut. Ça va, t'as pas l'air très joyeux, toi?
Si, tout à fait. Si, ouais, je sors du taf, je suis fini à 21h30, un peu claqué. Bon. Mais je suivais quand même à côté les débouchés. Hein. J'allais sur Twitter un peu toutes les 3 minutes, là, exceptionnellement, pour aller voir ce qui se passait.
Bon, bah c'est top, pour Nice, non, déjà, tu dois être ravi.
Ouais. Ben, alors, je vais commencer en disant qu'il y a 3 ans, pour la première révolution niçoise, donc avec l'arrivée de Dante, Belanda, Ballot et surtout Favre, le déclic avait démarré à contre un certain Olympique Marseille avec un 3-2 à la 4e journée. Donc on va croire au destin et penser que demain, on sera un peu sur la même chose. Alors franchement, j'écoutais tout ce qu'a dit Bob Radcliffe. Il y a eu un sans faute. Hein. La communication, elle est juste parfaite. Donc pour récapituler, donc pas juste investir, c'est-à-dire continuer les bons coups, développer le centre de formation, donc pas miser, pas mettre des sommes démesurées sur des joueurs de 27, 28 ans, même s'il faudra garder l'expérience comme il a pris l'exemple de Dante. Et surtout pas se précipiter. Et ça, en fait, ce que j'ai entendu, c'est juste une amplification de la dynamique et de la gestion qu'on a eu à Nice, donc tout sous les rivières. Il n'y a pas eu River par rivière. Pardon ?
River par rivière.
River, oui.
Ah, quand même, déconne pas.
Ok. Et donc les dernières choses qui m'ont fait vraiment plaisir, donc Vieira confirmé. Moi, je suis un fervent défenseur de Vieira, que je pense que l'année dernière, il a eu au début, Vieira, beaucoup disent que c'est un entraîneur très défensif. Au début de l'année dernière.
Ah non,
dernière,
jamais dit ça. Je sais pas qui a dit ça.
Il a été obligé de le faire. Il a été obligé d'être défensif.
On a pris un 4-0 contre Dijon en ayant eu plein d'occasions. On a joué Lyon juste après.
Je me souviens très bien avoir parlé de ce match et dire la même chose que ce que tu dis. Jamais de la vie, non.
De quoi?
Non, je suis absolument d'accord avec toi, notamment sur ce match contre Dijon qui voulait rien dire du tout, je me souviens.
De pas, par exemple, comme un Bielsa, de pas s'enfermer dans vraiment, allez, on va jouer l'offensive, on va mettre. Voilà, il s'est dit, bon, ça va être chiant.
Penalty à Bollaert.
Penalty à Bollaert. En effet, penalty pour Lens, Clément Brossard.
Lensois peut-être l'occasion de revenir à deux buts partout et qui sait connaître une cinquième séance de tir au but ce soir, ce serait quand même
c'est ce qu'il faut, c'est soirée péno.
Ouais, ce serait soirée péno, tout à fait. Le face-à-face, là c'est le capitaine Wayne Mesloub qui va donc essayer de recoller au score.
Mesloub, c'est technique, ça doit être dedans
ça. Pour Clermont, pardon.
Mesloub, c'est technique, ça doit être dedans.
Ouais, mais tu sais bien que les tirs au but, c'est aussi une part de loterie. Wayne Mesloub qui s'élance du pied droit. Ça passe juste en dessous. Du bras du gardien clermontois. Et Wayne Mesloub qui égalise à deux buts partout. Lens qui revient dans le match. Il reste encore une bonne demi-heure à jouer.
À tout à l'heure. Hugo, toujours avec nous. Tu peux conclure, Hugo.
Yes. Donc, ce que je disais, c'est qu'après, il est resté assez vague sur le retour du duo River-Fournier. Moi, ça m'étonnerait vraiment de ne pas les voir revenir parce que franchement, le discours que j'ai entendu, ça aurait été exactement le discours de Jean-Pierre Rivière s'il était là. Donc, ça m'étonnerait beaucoup. Et c'est vrai que, donc, Bob, il a dit dans un premier temps, il s'est pas précipité. Il a été vachement mesuré que notre modèle de gestion et de, ça serait copié sur celui du LOSC plus que sur celui de Marseille et exactement, je pense qu'il attendra de voir les résultats et si et parce que il faut pas oublier que depuis moi je suis supporter depuis 20 ans, j'ai connu un Nice dans le ventre mou souvent, même voire à la limite de la relégation. Là on est régulièrement dans le top 8 depuis quelques années.
Tout le monde veut copier le modèle de Lille, de Monaco,
non, mais ça arrivera, contre, non mais là c'est pas du tout le modèle annoncé.
C'est pas ce qui est annoncé. Donne sa chance au produit.
Non, mais d'accord. Quand tu veux pas ouvrir les vannes, il a dit, je veux pas ouvrir les vannes. Alors après, il y a de la com, d'accord, ok, qu'il calcule, mais
donne-lui sa chance.
Regarde l'effectif que t'as aujourd'hui. Encore une fois.
Non, mais là, arrivé, signé aujourd'hui, mercato qui termine dans 4 jours. Déjà, il fait venir 2-3 mecs. Il va lâcher 50 millions sur le marché des transferts. Je trouve quand même sévère. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je te trouve assez sévère.
Juste pour l'anecdote, Bob Ratcliffe, il a dit par ailleurs, vous savez, moi, j'ai été longtemps abonné à Chelsea. Et il dit, je peux vous dire
Il voulait acheter Chelsea. On était au-delà du milliard.
Et il dit, je peux vous dire qu'à l'Alliance Riviera, on est beaucoup mieux assis. Voilà ce qu'a dit Bob.
Ah, ça, c'est un compliment, ça.
Moi, j'ai pas ces mêmes infos que toi, qui voulait acheter Chelsea. Alors, moi, je vais t'expliquer qu'il vivait à Londres, donc forcément, il allait voir les matchs. Du moins, forcément, il aurait pu aller voir les matchs d'un autre. Il allait voir les matchs de Chelsea.
Temps, avis, il habitait
et qui voulait investir dans le football. Et que son rêve, et ça a toujours été un supporter de Manchester United. Et que son rêve, c'était d'acheter Manchester United. C'était impossible, il était pas à vendre. Donc, c'est pour ça qu'il a pas voulu se mettre sur Chelsea. Alors, après, je sais pas si c'est.
Et juste si je peux terminer.
Pour conclure,
tu connais mieux que moi un milliard.
Ouais, juste il peut terminer, ouais, donc je disais, je suis persuadé, de toute façon, comme Rivière l'a trouvé, qu'on attendra les résultats et la dynamique pour annoncer des objectifs plus gros par la suite.
Merci Hugo, en tout cas on suit ça de près, hein. Donc l'annonce des joueurs, enfin l'arrivée des joueurs ce soir à Nice, Dolberg et Claude Maurice.
Et ouais, donc, il y a Hichem Boudaoui qui devrait arriver bientôt.
Ah oui, un jeune Algérien, hein, c'est ça également, ouais, qui devrait arriver. Voilà, donc ça recrute à Nice. Merci Hugo, bonne soirée.
Claude Maurice est d'origine haïtienne.
Claude Maurice, bah oui, non, en général les noms. Ouais. Avec les noms de famille avec deux prénoms composés, c'est antillais, quoi.
J'aurais
haïtien,
dit antillais. Ou...
J'aurais dit plus en.
Mais les Haïti, c'est les Antilles, les grandes Antilles.
Non, mais ok, mais je... spécifiquement Haïti, je pensais, j'en sais rien. C'était peut-être. C'était une question.
Il y a peut-être eu un but d'Angiloata.
J'ai été influencé par Jean-Eude Maurice.
En Ligue des Champions.
Ouais, il y a eu un but très important pour le Dynamo Zagreb qui vient doucher les espoirs de Rosenborg. 72e minute de jeu, une frappe absolument magnifique d'Amer Gojak, jeune milieu de terrain bosnien qui est entré en jeu il y a quelques minutes. Ça fait un but partout entre Rosenborg et le Dynamo Zagreb.
Moi, je suis content de voir le Dynamo Zagreb en Ligue des Champions parce qu'il paraît qu'il y a 2-3 jeunes joueurs qu'il faut regarder de près dans cette équipe.
De ce que je vois en tout cas ce soir, effectivement, c'est une équipe qui joue au ballon. Il n'y a pas qu'Amer Gojak qui vient de rentrer. Il y a une équipe qui a l'air plutôt intéressante. En tout cas, ils sont en passe de se qualifier.
Je préfère voir Zagreb que Rosenborg, où il ne doit quand même pas y avoir beaucoup de finaux dans l'équipe.
3 buts à 1 sur
Rosenborg, c'est rarement
c'est du bûcheron quand même, normalement.
Merci. Quant à Claude Maurice, je ne sais pas de quelle origine il est, mais en tout cas, il est d'origine de Noisy-le-Grand. Enfin, il est né à Noisy-le-Grand.
Oui, ça d'accord.
Voilà, bah non, mais écoute, je peux pas dire qu'il est haïtien.
C'est vrai qu'il paraît qu'à notre époque, on n'a plus le droit de demander d'où vient une personne et quelle est son origine.
Tu peux le demander, moi je te dis juste qu'il est né à Noisy-le-Grand.
Non, mais il paraît qu'on n'a plus le droit de demander, donc je retire la question, on n'a pas le droit de demander. Certains se sentent insultés quand on leur demande.
Demandez quoi?
Génération.
Ah, les origines?
Ouais. Il paraît qu'on n'a plus le droit. C'est plus autorisé, ça.
Ah bon?
C'est raciste.
Il y a des gens qui se vexent comme quand je rappelle que tu étais au concert d'Eros Ramazzotti. Pareil.
Oui, et là, c'est pas pareil, c'est un mensonge. Voire de la diffamation. Pas la même chose.
Et pour Zucchero, t'assumes ou?
Zucchero, son premier album était intéressant. Après le reste, je dois dire que c'est pas non plus totalement ma musique, hein, mais bon.
Dans quelques instants, justement, on va partir en Italie, messieurs. Retrouver Simone Rovera, qui sera...
Demande-lui à lui s'il aime Ramazzotti. Simone Rovera, parce qu'on a l'impression que, avec tes clichés, que tous les Italiens aiment forcément Ramazzotti.
Bah, Jérôme.
Bah, c'est pas comme ça, en fait.
Ah bon?
Non, moi, j'aime Ramazzotti.
C'est comme ça.
Mais c'est normal, t'es pas italien.
Et d'ailleurs, méfie-toi, parce que ça aussi, ça pourrait être très mal vécu. Voilà. Ça pourrait être... Non, je sais pas, moi...
On peut plus rien dire.
Exactement.
Allez, donc, faut faire à tout de suite dans l'after, pour partir attention. Pour de bon en Italie.
RMC, 21h30. L'after foot, Gilbert Bribois.
Laure Le Payeur est là. Laure fait un carton sur Direct Studio. Hein. Ah, la voix de Laure fait du bien, dit Julien, dans ce monde de brutes. Je précise que Jérôme et Daniel ne sont pas du tout des brutes.
Bah, c'est un peu misogyne, ça. Hein. Faut le dire, hein, le gars. Ça se dit pas
non,
trop,
qui
ça.
Se méfie.
On peut rien dire, en fait.
Oui, mais Laure, ça veut dire qu'on fait
une différence entre elle et nous, alors qu'on est pareil. N'oublions pas les nouvelles règles de la société d'aujourd'hui.
Voilà. Allez, point sur les matchs.
Nous ne sommes pas.
Rapidement, lance Clermont. De la Ligue Clément Brossard.
Il reste un peu plus de 20 minutes, deux buts partout entre Lens et Clermont. Florian Sotoka et Walid Mesloub pour les Lensois, Lorenzo Rajo et Mario Gonzalez pour les Clermontois.
La Ligue des Champions, y a-t-il une évolution de score, Angiloata?
Pas d'évolution au score, un gros quart d'heure à jouer, un but à zéro pour l'Étoile Rouge de Belgrade face aux Young Boys de Berne. Entrée en jeu de Guillaume Moharo pour essayer de remonter le score et de marquer deux buts, ce serait ce qui qualifierait les Young Boys de Berne. 2-1 toujours pour l'Olympiakos face à Krasnodar. Olympiakos est qualifié. Ça, je crois qu'on peut l'annoncer à un quart d'heure de la fin du match. Et Rosenborg face au Dynamo Zagreb, toujours un but partout. Pour l'instant, c'est le Dynamo Zagreb qui est qualifié.
Avant d'accueillir Simone Rovera, vous le savez, on vous fait les cadeaux de rentrée dans l'after. Et ce soir, comme hier d'ailleurs, on vous offre dans l'after votre déco. Eh ouais, la déco de votre appart. On est comme ça. Donc, si vous voulez qu'on vous refasse la déco.
Faites gaffe, hein, parce que là,
c'est qui offre.
C'est qui offre aujourd'hui.
Attends, on peut la choisir la déco
attends,
quand même.
Attends, je vous explique. En fait, on vous offre l'équivalent de 2 500 € d'aménagement d'appartement. C'est pas mal.
Oui, mais il faut la dépenser où?
Ça, j'ai pas les détails.
Ah. Hein, et quel type de déco?
C'est-à-dire qu'on n'a pas un partenaire qui est mis en avant.
Vous êtes compliqué quand même. Je te file 2 500 €. Tu me dis, c'est qui est là?
Non, mais d'accord, mais je les prends. Mais est-ce qu'il y a une marque ou
ben non, je n'ai pas la marque.
Non, mais la déco, on t'achète un canapé, on te fait la peinture.
Dis donc, toi, tu commences à mal tourner. Non, mais...
En fait, ça. On offre ça, mais c'est chacun son tour. Donc là, c'est la déco. C'est moi qui offre aujourd'hui la déco. Je conseille aux gens de.
C'est du sponsoring, ça. Il n'y a pas une marque derrière.
C'est oui, ça ajoute un sponsor. sort, mais là je n'ai pas son nom.
Bah, il va être fâché le gars que tu cites pas sa marque.
Ah bah ouais, mais il y a des
va dire je fais un cadeau pour rien.
Il y a des consignes. Pour remporter les 2500 euros de déco, d'aménagement, vous envoyez RMC par SMS au 73216. Je dis bien RMC par SMS au 73216 dès maintenant. N'hésitez pas, c'est cadeau, c'est pour vous.
Voilà. C'est beau cadeau hein, d'entrée de la reprise. Là.
Non, à mon avis, c'est le partenaire de la Ligue 1, c'est Confo.
Peut-être. Confo font pas la peinture. Hein.
Ah, ouais. Bah, il n'y a jamais été question de peinture.
Ben non, mais je sais pas, Laure,
je sais pas, quand on fait la déco, ça peut être.
On a dit les travaux, on a dit la déco, Laure.
La déco. Bon.
Bah, la peinture peut faire partir de la partie de la déco.
Passons à la suite. Simone Rovera nous rejoint. Simone, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir. J'ai besoin de meubles dans cet appartement. J'ai envoyé les textos et j'espère de gagner.
Voilà. Simone vient déménager, donc évidemment, il est
déjà. J'ai déjà mal. Si j'étais ton canapé, je souffrirais. Vas-y, vas-y, Simone.
J'ai pris un grand canapé. Hein.
Oui, oui, bah, oui bah, je te dis,
il n'y a pas de souci. Il fallait le prendre large, pas grand.
Simone, si tu
devais. Prends une bonne assise.
Si tu devais le dégager, Simone, l'information principale du week-end en Italie, ce serait quoi?
L'information principale pour moi, c'est que Siniša Mihajlović était sur les bancs de touche à Vérone. Pour moi, c'est au-delà du sport, c'est la vraie info du week-end, j'espère, de la saison. Après 40 jours passés dans l'hôpital Sant'Orsola de Bologna pour soigner sa leucémie, Siniša Mihajlović a eu la force d'aller sur les bancs de touche pour guider son équipe dans la première journée du championnat. Et pour qui a vu les images, c'était vraiment un homme qui cherchait de faire son travail au mieux avec toutes les difficultés d'être malade, de guérir.
Et ça a touché tout le monde en Italie parce que c'est, on l'oublie ou peut-être on le sait pas, mais c'est d'abord un mec qui est passé dans beaucoup de clubs et c'est un type qui est très apprécié en Italie, dans le football italien en tout cas.
Oui, qui a beaucoup d'amis, tout le monde, les clubs, les supporters, ouais. Ça a touché plein d'entraîneurs. Le premier, c'est Roberto Mancini qui a travaillé avec lui pour plusieurs années. Donc, oui, c'était une belle histoire. Et donc, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante à retenir de ce week-end italien.
Alors,
bon, après, il y a eu le jeu et tout, il y a mille autres choses à retenir quand même.
Bien sûr, mais la première pour moi, c'est.
Et il y a le retour au premier plan. Peut-être de ton équipe déjà pour commencer.
L'Inter donc que tu allais voir jouer hier.
Alors oui, et il faut dire déjà qu'il y avait 65 000 spectateurs pour la première des championnats à la fin d'août. C'est quelque chose qu'on voyait plus depuis l'année après les triplés. Donc imaginez, déjà il y avait un enthousiasme de base pour l'arrivée
d'Antonio Conte. C'est le rêve Conte.
Bah, c'est Conte, bien sûr. Conte, c'est les premières pas, on peut dire, la première pierre. Après, il y a eu l'arrivée de Lukaku, de Barella, de Sens. C'est donc un mercato important. La chance de jouer face à un petit promu qui a cherché de faire du jeu et donc il a pris une embarcade énorme avec 4 buts et des vagues parfois des attaques interistes qui étaient vraiment percutantes.
Est-ce que tu as tout de suite reconnu le style Conte avec un grand nombre de kilomètres parcourus et une équipe en pleine débauche d'énergie ou pas?
Alors, je raconte cette anecdote. Pour moi, c'est la chose meilleure de la soirée. À la fin de la conférence de presse, Antonio Conte nous dit « Moi aussi, je cours beaucoup, je suis très fatigué. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, mais j'en fais au moins 6-7. » Nous, on rigole. Après, il nous montre sa montre connectée et il fait voir combien de kilomètres il a parcouru pendant les matchs. 8. Antonio Conte sur les bancs de touche. Aller-retour, aller-retour, aller-retour.
Mais, oui, ah mais c'était peut-être depuis le début de la journée, non?
Lui nous a dit que c'est pendant les matchs. Après, peut-être.
Comment tu fais 8 km au bord du terrain?
Je sais pas, il nous a montré. J'ai vu la montre. Je voulais prendre en photo, mais ça me semblait un peu.
Déjà, le délire de déclencher ta montre avant le match pour savoir combien de kilomètres tu vas faire.
Rassure-moi, ils n'ont pas tous gobé comme toi ce truc-là, quand même.
Bah oui.
Parce que le pire, c'est que tu nous le dis en plus. Et que tu le crois. Non, mais 8 km. Ouais. Simone, 8 km pendant le match. Je veux bien.
Écoute,
mais...
Jérôme, si tu courais 4 km pendant le match, c'est pas ma faute. Moi, je fais 4 km déjà, par mois.
Mais
donc,
qu'est-ce que tu fais 4 km, toi? Moi, on parle pas de moi. On parle pas de moi. On parle des joueurs, là. Les joueurs. Donc, celui qui a le moins le couru, allez, peut-être qu'il a fait 8 ou 9 bornes. Donc, il a fait pratiquement autant qu'un joueur qui joue.
Non, mais. C'est vrai qu'un défenseur central dans un match, en général,
moi, je t'ai dit que c'est quand même Antonio Conte.
Oui, il est allé faire
une. Est-ce que tu as déjà noté chez les joueurs la caractéristique qui fait les équipes de Conte, à savoir, ça court beaucoup, il y a une grande générosité, du pressing, ce genre de choses-là. Déjà, ça s'est vu sur un match.
Surtout l'énorme générosité de deux latéraux. Pour moi, l'homme qui m'a plus touché, c'est voir Antonio Candreva qui était sifflé, hué la saison dernière. Oui. Personne ne voulait plus les voir.
Et en plus, il a fait
un match extraordinaire. Il a fait un but magnifique à la fin du match. Il a joué 90 minutes. On s'attendait à voir Candreva 30 minutes à la fin du match. La saison dernière, quand il jouait 15 minutes, il était déjà fatigué. Là, il arrive à faire 90 minutes, latéral droit. Donc, travail offensif et défensif dans le système de Conte. Il est une des meilleures. Il met un but splendide à 5 minutes de la fin. Donc, pour moi, les premiers miracles d'Antonio Conte, au-delà de l'enthousiasme, au-delà de l'effet un peu de voir 4 buts, parce que Lecce, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire cette saison, c'est de voir des joueurs vraiment avec un nouveau visage.
Mais c'était un joueur, moi j'aimais beaucoup, notamment quand il était à la Lazio notamment, et à l'Euro 2016, donc Conte dirige la sélection, c'est un des meilleurs joueurs, et c'est là qu'on voit un mec qui est capable dans le couloir de faire des quantités d'aller-retour incroyables, de centrer, d'être présent. Là, il retrouve Conte, il s'est remis à bosser. Je trouve qu'il s'est un peu gâché les dernières années. S'il arrive à refaire de ce joueur un bon joueur, c'est pas mal, c'est même étonnant.
Je ne sais pas si c'est remis à bosser. En tout cas, Candreva, ça a toujours été un joueur qui courait beaucoup.
Ah, mais à l'Inter, il ne faisait plus rien.
Oui, mais il ne faisait plus rien. Après, il faut voir les entraîneurs, il faut voir les équipes qu'il a aussi.
C'est ça. Mais c'est un mec qui avait beaucoup de qualité.
Bien sûr, et puis ça n'a pas disparu. Et je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais même surpris de voir certains matchs de Candreva l'année dernière à l'Inter. Et quand je le voyais à la Lazio, à chaque fois il y allait, les allers-retours et tout. Et de toute façon, il n'y a pas qu'avec Conte. Aujourd'hui, les joueurs de côté, ils ont intérêt à beaucoup courir dans n'importe quelle équipe. Que tu joues en 4-4-2, que tu joues en 3-5-2, en 3-4-3. Sur les côtés, ça y va, ça envoie, ça attaque, ça défend. Donc, il y a ce style-là.
Plus quand même dans le système de Conte. T'as vraiment un rôle primordial dans les joueurs de couloir.
Le problème de Conte, moi je veux bien.
Combien de temps ça tient?
Ben voilà, c'est ça. Et comment tu fais passer ton message? Moi je me souviens. À Chelsea, il a été champion la première année.
Ça envoyait. C'était d'un point de vue général.
Avec une équipe qui était 10e la saison avant.
Ouais, au niveau de ce que tu voyais, t'avais l'impression que les joueurs étaient dans un don, dans un effort qui était admirable. Mais après, t'as raison, peut-être l'année d'après ça cale. Mais quand ça marche sur une année, c'est assez impressionnant. Entre son énergie à lui, celle des joueurs, c'est super, kiffant pour les supporters.
Le problème de ça, Daniel, et je te dis, pour en avoir parlé avec beaucoup de joueurs, je les ai commentés à cette époque-là, je les voyais après le match, alors je vais pas tous les citer, mais un paquet me disait, mais on en peut plus, quoi.
Bien sûr.
On en peut plus de ces méthodes, ces vidéos, le travail sans ballon, parce que la semaine, quasiment, il voyait pas le ballon. Il avait des putains de joueurs de ballon, quoi, tu vois, à Chelsea. À l'arrivée, il dit, on tient parce que le week-end, on revoit le ballon, on a envie de bouffer le ballon et qu'il y a les résultats. Mais le jour où il n'y a pas les résultats.
Je sais.
Le jour où on perd, je pense que là, on va tous. Ils n'ont pas perdu de l'année quasiment, et ils sont restés en haut. Ils ont été champions l'année d'après. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est la limite de ce système-là. Généralement, c'est comme ça.
Et à l'Inter, est-ce qu'ils seront capables de continuer? Alors là, on va pas les juger sur Lecce.
Je suis sûr qu'ils vont faire une grande saison.
Je leur souhaite.
Je suis sûr qu'ils vont faire une grande saison.
Mais en tout cas, sur le match, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes intentions. J'ai trouvé un très bon milieu de terrain. Sensi, il s'est bien incorporé dans ce milieu. Il a été très offensif, et puis surtout devant, j'ai trouvé Lukaku plutôt en forme, et Lautaro Martinez,
Il est arrivé tard au niveau du foncier, il a fait bosser comment du coup?
Mais Lukaku, tu sais que Lukaku... excuse-moi Simone,
Lukaku, hier, Conte nous a dit qu'il a encore tellement à s'améliorer sur la part physique et surtout sur ce qu'il peut encore donner plus.
Il va le faire trimer, Lukaku.
Conte l'a dit, l'avant Cézanne, imaginez, qu'est-ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qu'il peut encore faire, et pour moi, ça peut s'améliorer beaucoup au niveau de travail tactique, de la finition et technique, et il est arrivé en retard. Donc, sur les premiers matchs, certaines accélérations, on a vu un joueur qui arrivait vraiment à faire la différence incroyable face à des défenseurs, comme j'ai dit, d'une équipe promue. Il faut voir dans d'autres matchs. Mais l'Inter, la saison dernière, allait faire des matchs nuls face au Chievo, face à l'Udinese. Lukaku, peut-être encore plus que Icardi, c'est l'attaquant qui peut faire vraiment la différence dans certains matchs face à des équipes plus petites, avec sa force, son physique, sa vision de but. Parfois, il a des contrôles, il faut le dire, il n'est pas extraordinaire.
Simone,
mais il a un impact important.
On va parler de la Juve dans quelques instants, de Milan également, tu voulais en parler. Mais d'abord, une question très importante te concernant. Eros Ramazzotti, tu t'aimes bien ou pas ?
Un peu dans les années 90, mais après, c'est un peu fini pour moi. Mmh. Ah, c'est un grand homme de la musique italienne, mais c'est pas. Là aussi, on est encore dans les années 80. Moi, je suis un peu plus.
Claude Barzotti.
Arrête le pauvre. Tu lui imposes là des
choses. Luciano Ligabue,
Claude Barzotti, me dis pas que dans ta R5, t'as écouté du Claude Barzotti.
T'as bien écouté Claude Barzotti.
Non.
T'avais quoi comme voiture? Toi, t'avais une tête à avoir.
Ah, vas-y, allez, devine. La toute première, vas-y.
Je te dis, moi, une.
Allez, tu vas te sortir, tu as fait un effort, tu trouves.
Une 4L.
Ah, déjà, non, je te donne l'année, parce que tu vas t'aider avec l'année, c'est fin des années 80.
Fin des années 80? Pas une 2 chevaux, quand même.
Mais non, pas 4L, voyons, pas les gars. Mais vous étiez sur les pistes, là, au début, vous partez bien, et puis d'un coup, vous vous mettez à déconner.
Quoi? Une Super 5?
Ah non, mais il faut que ça colle avec ce que vous avez dit avant.
Une Fiat, enfin!
Ah putain, merde!
Une Fiat,
oui.
Une Punto!
Ah non, ça c'était la deuxième.
Non.
T'avais la Panda!
Non! Entre les
deux, j'ai mis la Panda.
Voilà, bravo!
Fiat Uno!
Et dans sa Fiat Uno, il écoutait.
Et quelle couleur il était?
Dans sa Fiat Uno, il écoutait ça.
Je suis Rital et je le reste!
Ah, tu le vois avec les lunettes, le petit là.
Je suis Sicilien, il disait tout le monde, je suis Sicilien moi. Et je vais y arriver.
Non, plus, cette chanson, elle est pas
moche. Oui, bah écoute, là, si t'as envie, ça m'intéresse pas.
Elle est pas moche.
Oui, mais ça m'intéresse pas. Moi, je la trouve horrible.
C'est parti de la.
Ah, moi, je la trouve.
C'est un Sicilien, Claude Barzotti ou.
D'origine. Oui.
Le spaghetti, le minestrone.
On enfonce les clichés, c'est.
Dans quelques instants, la suite de l'Italie, bien
j'imagine
sûr.
J'imagine un robot qui chante.
J'aime le couscous et les boulettes.
T'as Barzotti, il est gentil. Mais à un moment, t'avais le créneau, tu sais, t'avais
Lance
le créneau. Tu vendais.
Remets-moi le refrain à 2 secondes.
Je suis Rital et je le reste.
Ah, moi j'ai dû, dans ma Clio, c'était ma première voiture, j'ai dû mettre ça.
Ah, t'avais
ça.
Clio toi?
Ah, une Clio Club Med.
Quel dommage,
je l'ai eu en bleu marine et en blanc. Et après Punto.
Pas mal.
Lens Clermont, vite fait le score, Clément.
Il reste 7 minutes à jouer, 2 partout entre Lens et Clermont.
Ligue des Champions, les scores rapidement, Angie.
Un but partout, c'est la nouvelle entre les Young Boys de Berne et l'Étoile Rouge de Belgrade. Plus qu'un but et les Young Boys de Berne seront qualifiés. 87 minutes de jeu, c'est plié sur les deux autres pelouses. 2-1 pour l'Olympiakos face à Krasnodar et un but partout entre Rosenborg et le Dynamo Zagreb.
Et à tout de suite dans l'After l'Italie au programme. Et n'oubliez pas Julien Cazard juste après 23h. Il nous parlait de Jubizarreta. Julien, entre autres,
et on parle là, moi je me vois en Sicile avec l'auto Bianchi là et ça.
RMC, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Avec Jean Lefailleur, avec Jérôme Rotten, avec Daniel Riolo et avec Simone Rovera, plus Clément Brossard, car il y avait un pénalty pour Lens à l'instant. Lens, Clermont.
Ouais, la grosse occasion pour les Lensois, là, 3 minutes de la fin, les 100 heures qui avaient l'occasion de valider quasiment leur ticket pour les 16e de finale. Et Banza qui a envoyé son tir au but sur la barre du gardien clermontois.
Il s'appelle, comme le film avec Coluche.
Banza. Sans lui. Non, Banza sans lui.
On aurait pu le rajouter le, il a vu comment il l'a tiré.
C'est leur film, Banza.
Sur Bertrand Zersal, donc Jana qui a presque été décisif lors du premier tir au but. Okay. Et cette fois, il est sauvé par sa barre. Ça fait toujours 2-2. Il reste 2 minutes à jouer.
Simone, Milan, tu as parlé de l'Inter. Il faut faire le contraste un peu entre ce qui se passe à l'Inter et à Milan, parce qu'il y en a un qui va bien, il y en a un qui va pas fort.
À Milan, il se passe rien.
Bah, à Milan, oui, on a l'impression que rien s'est passé cet été. On dirait certains supporters regrettaient même le Milan de Gennaro Gattuso de la saison dernière. Il faut dire que pour Gianpaolo, c'est une de ces entraîneurs qui a besoin de beaucoup de temps pour imposer son jeu. Un peu comme j'imagine, et je suis sûr qu'il y aura
besoin de joueurs aussi.
Il a besoin des joueurs, mais il doit les faire jouer, parce que quand même, ils sont arrivés des bons joueurs. Cet été, quelqu'un un peu en retard, parce qu'il y avait la CAN, comme Bennacer, qu'on a vu très bien à la Coupe d'Afrique. Raphaël Léao y est arrivé, mais pour l'instant, il est rentré en jeu que en deuxième mi-temps. comme Maurizio Sarri, même chose, Gianpaolo, il a commencé le match avec zéro recrue. Ça arrive souvent en Italie, ça arrive souvent même à l'étranger, mais en Italie, avec une culture tactique différente, avec certains automatismes parfois qui sont déjà rodés, les nouveaux arrivés ont besoin de plus de temps pour s'intégrer. Donc, le Milan a fait vraiment une très mauvaise impression, zéro tir cadré en 90 minutes, imaginez, face à l'Udinese, bien sûr, en déplacement, pas un match si simple comme celui de l'Inter face à un promou, mais le Milan, on a vraiment l'impression que c'est très en retard. Et imaginez qu'après avoir travaillé tout l'été sur ce nouveau système, les 4-3-1-2 avec un numéro 10 derrière deux attaquants, apparemment, Marco Giampaolo est déjà prêt à faire un pas en arrière, à revenir sur les 4-3-3 de Gattuso de la saison dernière. On a l'impression qu'il y a plusieurs choses qui ne se passent pas très très bien. Le mercato, okay, c'est encore compliqué à gérer. On part d'un départ de Kessi, on sait bien dans les infos mercato, ouais, de RMC Monaco, qu'il pourrait aller à Monaco. Et donc, il y a plein de choses encore que faudra changer.
Parlons maintenant du match entre Fiorentina et Naples avec Ribéry qui a fait ses débuts. Est-ce qu'il y a une sorte de folie Ribéry ou ça s'est déjà un petit peu calmé là, vu que la Fiorentina a perdu?
Non, elle a perdu, mais 4-3 à domicile face à Naples, qui est une des grandes grandes équipes de notre championnat. Et je peux dire que cette défaite a lancé encore plus l'enthousiasme à Florence. La barre est encore plus haute. Là, on rêve vraiment d'être protagoniste d'une belle saison, d'une qualification en Europe, pourquoi pas. Franck Ribéry, on rappelle, avait mis peut-être la barre trop haute. Elle avait parlé du troisième place. Donc, on verra si la Fiorentina arrivera à se qualifier en Ligue des Champions. Mais non, l'enthousiasme est grand. Dans les derniers jours de mercato, on devrait avoir plusieurs arrivées à Florence parce que là, les présidents, les propriétaires, l'italo-américain Rocco Misso a promis de faire arriver encore des nouveaux joueurs. Donc, je peux bien dire qu'ils ont fait 25 000 abonnés. C'est beaucoup pour la Fiorentina. Je peux dire que cette défaite a quand même fait voir que cette équipe a des bons joueurs, des jeunes, comme Vlahovic, comme Chiesa, bien sûr, comme Castroville, une des pépites qu'on a découvert ces week-ends, mais avec des vieux, des anciennes, on peut dire, Ribéry, Boateng, qui a fait une très belle entrée en jeu et a marqué un super but. Donc, non, la défaite n'a pas coupé l'enthousiasme, tout au contraire, les jeux qu'on a vus a lancé encore plus la folie dans la ville de Florence.
Juste, parle-nous de la recrue napolitaine du jour, là.
Lozano, mexicaine, il arrive de PSV, 42 millions d'euros payés, et c'est la recrue la plus chère de l'histoire de Napoli. 42.
Ouais. Tu trouvais pas que c'est beaucoup, 42?
J'aime beaucoup ce joueur.
Moi aussi, je l'aime beaucoup. Je l'avais bien aimé à la Coupe du Monde. Et même avec le PSV Eindhoven dans la campagne européenne l'année dernière, il avait été intéressant. Moi, j'aime bien. Il est plein de fougue. Il est généreux dans l'effort. Je pense qu'il va bien s'incorporer là-bas.
Une bonne recrue pour Naples, ouais.
Elle pourrait débuter samedi face à la Juve.
Naples, ils vont être chapeau 2 ou chapeau 3, Naples?
Je pense 2.
Chapeau 2.
2.
Ouais, c'est.
Bah attends, c'est Gilbert qui met bien les Gilbert, chapeaux.
C'est Naples, c'est chapeau 2, puisque Pierre Dorian, qui connaît par cœur les chapeaux pour son PSG favori, m'a dit Naples, c'est pas possible de tomber contre
eux. Et Lyon, chapeau.
Ah si, c'est possible de tomber contre eux si le PSG.
Lyon, ils sont obligés d'attendre, je crois.
Bah non, il m'a dit que Naples, c'est pas possible.
Bah ils sont pas chapeau 1.
Bon, bah Pierre Dorian, t'as l'air.
C'est pas chapeau 1, mais c'est sûr.
À mon avis, toi, au niveau des chapeaux, t'en es à pas comprendre quand un mec te parle des chapeaux.
T'imagines, toi.
Tu crois?
T'as repoussé plus loin.
Oui, parce que Naples, chapeau 2, tu nous dis.
Pas lui-même,
tu peux nous sortir. Non, il n'y aura pas de Naples Paris, en
fait. L'année dernière, j'ai fait un sans faute. Daniel.
Qu'est-ce que t'as fait en sans faute l'année dernière?
Parce on t'a embrouillé.
Personne qui t'aurait aidé sur Twitter.
Mais même avec ça, on l'a embrouillé et il savait plus ce qu'il disait. Et il a même dit au bout d'un moment, bon, allez,
non,
on arrête.
Non, on ne croit pas. Voilà. C'est de la diffamation. Non,
d'ailleurs, on en est où d'ailleurs, les chapeaux? Il va falloir commencer à y penser. Là, c'est le tirage après.
C'est vendredi.
Après-demain.
Ouais. Et ben, comment c'est que tu nous as pas donné encore les chapeaux là?
Parce que moi, là, je suis dans d'autres.
Non, parce qu'il y a encore les qualifiés.
Il y a les qualifiés demain.
Confirmation, on a plus chapeaux
là. Là, demain. Excuse-moi, mais là, il y a les. Mais non, comment ça demain? Mais moi, je veux qu'avant minuit, on ait les chapeaux. Gilbert, il y a des qualifiés, mais tomber là.
Ah non, tu peux pas. Demain, il y a encore des qualifs. Ça détermine.
Mais quel qualif demain?
Eh ben, il y a trois équipes.
Par exemple,
mercredi.
Oui,
pardon, demain, c'est mercredi. Pardon, excusez-moi. Non, bah, demain soir, 22h30, je veux les chapeaux, Gilbert.
Stop à la diffamation. Demain soir, 22h30, on sera pas là, puisque demain soir, on est là dès la fin du match Lisbonne.
Bon, bah, 23h, là, tu chipotes.
Bah, 23h.
T'es horloger suisse ou quoi? 23h, 22h30, on est là, non? C'est pas
un mot de la Juve pour conclure, Simonet.
Comment bah, ça, déjà, c'est important la Juve.
Il reste 2000.
J'ai 1000 questions à lui poser là-dessus.
Ouais. Bah, déjà samedi soir, on aura plein de réponses parce qu'il y a Juventus Napoli. Donc samedi soir déjà gros.
Comment ça se fait que jamais en Italie de tradition les chocs ne tombaient si vite dans la saison?
Ouais, on a éliminé les traditions, on a éliminé un peu les limites qu'il y avait au tirage, donc ça c'est mieux. Par contre, dimanche, on a un petit Roma Lazio.
Le choc, il vient si vite. J'aime pas du tout ça.
Mais donc, laisse-le parler de la Juve, là. Toi, tu lui poses 20 000 questions. Alors, vas-y.
Bah, match plutôt décevant. Là aussi, Sarri à ligne zéro recrue. Donc, pas des délicts, pas des rabiots.
Et De Ligt, il fait déjà la gueule.
Ouais, j'ai lu une déclaration en disant qu'il a été surpris de pas être titulaire.
Ah bah, De Ligt dit je suis surpris d'être pas titulaire et après un seconde plus tard, il dit quand même Bonucci et Chiellini sont des symboles de la Juve. Je peux comprendre qu'il démarre la saison. Donc
il va comprendre le week-end prochain, puis après il va arrêter de comprendre. Hein.
Ouais. Bah, je pense que après la trêve, on verra la Juve avec un nouveau visage. Là, le prochain match, comme je disais, c'est Juve-Napoli. Donc Maurizio Sarri, qui voudrait être sur les bancs, on rappelle lui aussi là ce problème.
Il y a des nouvelles de sa santé.
Il va mieux. Il a demandé d'être sur les bancs samedi, mais il y aura demain un rendez-vous avec les médecins pour voir si c'est possible. Donc, quand même, belle amélioration. Petit problème entre les autres, les 0 minutes de Paulo Dybala, qui lui aussi va faire beaucoup la gueule. On va voir s'il va partir. Donc, plein de choses à gérer pour la Juve, qui n'est pas belle sur le terrain.
Ouais,
et d'ailleurs, le terrain, encore plein de problèmes à régler. Mandzukic, qui ne joue pas. Matuidi, titulaire, mais qui
Comment
reste quand même...
Comment il peut démarrer la saison en se disant qu'il va aller loin en Ligue des Champions avec Higuain?
C'est fini, merci Simonet.
Cette équipe, elle a été catastrophique.
Ciao, à très vite.
Très bizarre ce qui s'est passé.
La Ligue des Champions, les matchs sont quasiment terminés, Angie.
Les matchs sont même terminés, Gilbert. Qualification de l'étoile rouge de Belgrade face au Young Boys Bern. Un but partout sur le match retour. Il y avait eu deux buts partout au match aller. Krasnodar éliminé par l'Olympiakos. Victoire de l'Olympiakos, 2-1.
Une qualification
du Dynamo Zagreb sur la pelouse de Rosenborg. Un but partout.
Merci Angie, bonne soirée. Lens Clermont, où en est-on, Clément?
Il reste une petite minute dans le temps additionnel. Deux buts partout, entre Lens et Clermont. On se dirige donc vers une cinquième séance de tir au but ce soir. Clermont qui vient d'être réduit à 10. Il reste à 50 secondes maintenant. Direction les tirs au but entre Lens et Clermont.
Quel suspense, la Coupe de la Ligue, c'est magnifique. À tout de suite. Julien Cazard dans quelques instants. Zubizarreta au programme. Le Mercato, l'interview de Jérôme Bretagne par Julien Cazard. Plus. Le quiz au 32-16, bien sûr. Laure, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ça va, Laure, je pensais que justement, j'allais lui demander si pour le quiz, elle restait. Le quiz est au niveau, là.
J'ai écouté hier sur le foot italien, les joueurs, c'était pas top.
Moi, je sais pas, je trouve qu'elle arrivait, j'ai gagné. Donc,
mais Laure, il y a eu donc un vrai. On en parlait hier avec Daniel, il y a eu un vrai effet Coupe du Monde féminine parce qu'on a vraiment. La reprise du championnat de D1 féminine a repris.
On lance le sujet maintenant, donc on n'a plus le temps.
Parce qu'il n'a pas eu le temps, il voulait le dire depuis tout à l'heure.
Donc là, c'est un engouement incroyable.
Engouement incroyable. Claire Fontaine était vraiment ça a bien très marché, rempli avec la reprise de l'équipe de France.
Merci, Laure. Bonne soirée. À tout de suite.
Bravo.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.
This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water. And instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock, making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive. You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.